Alors, nous allons poursuivre avec une chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon ». Et pour cette nouvelle chronique, Véronique nous commente un texte de Richard Stallman intitulé « Le droit de lire ».
Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Véronique Bonnet. Bonjour Véronique.
Bonjour Fred.
Alors Véronique, tu es professeure de philosophie et tu es également membre du conseil d'administration de l'April. Et tu vas nous faire une nouvelle chronique intitulée « Partager est bon ». Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un article assez ancien de Richard Stallman, plus de 20 ans, 1997, qui s'intitule « Le droit de lire ».
Alors, cet article est une dystopie. Alors, une dystopie, c'est une fiction. Bon, je pense que vous connaissez Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il y a quelque chose de cela, puisque dans la fiction de Bradbury, il y a des autodafés, on brûle les livres, on veut absolument que les personnes ne puissent pas accéder au savoir, et la seule ressource, c'est que les rebelles apprennent par cœur des textes. Il y a un tel qui devient le chapitre de la physique d'Aristote, le premier chapitre, il y a un autre qui connaît par cœur un poème de Goethe, etc. Il y a un autre texte, qui est le 1984 d'Orwell, qui visiblement est aussi dans la même lignée. On appelle une dystopie donc une fiction qui représente un état du monde épouvantable, ce qui est le cas ici. Le narrateur de cette chronique, de cette fiction, se trouve après une révolte, révolte qui a succédé à un écrasement intégral de l'autonomie d'accéder au savoir, de lire des livres. Et il se trouve que le héros qui est évoqué par le narrateur, qui parle depuis 2096, reçoit en 2047 une demande qui émane d'une jeune fille qui s'appelle Lisa. Alors le héros, c'est Dan Albert. Il se trouve que Lisa Lenz, qui est très pauvre, lui demande de lui prêter son ordinateur parce qu'elle a besoin de rédiger un rapport universitaire, sans quoi elle va échouer. Et il se trouve qu'en 2047, cette demande est choquante, puisque ceux qui veulent partager des ordinateurs, des mots de passe, des livres, sont considérés comme des rebelles, des pirates, des délinquants. Et donc Dan est très choqué parce qu'il sait que s'il prend ce risque dans ce monde crépusculaire de partager avec Lisa, simplement donc cet outil de travail, il va avoir des problèmes de la part de la SPA, la Software Protection Authority, qui veille sur les copyrights, qui siphonne les données générées par des utilisateurs grâce à un dispositif espion, qui enregistre, qui sait qui lit quoi, quand, combien de temps. Je pense que ça vous rappelle des choses. Toute référence avec des situations réelles est évidemment indue. Et il se trouve que Dan réfléchit, puisque certes, il risque de se faire emprisonner. C'est exactement ce qui est arrivé à l'un de ses amis, Frank Martucci, qui avait utilisé un outil de débogage pour déverrouiller le code du moniteur de copyright, pour accéder donc à un livre. Alors, dans ce moment extrêmement noir, il se trouve que on a même oublié ce qui avait lieu avant 1990. Avant 1990, il y avait un accès libre à des bibliothèques. On pouvait emprunter gratuitement des livres scientifiques. On pouvait partager des logiciels. il y avait des noyaux libres, il y avait des systèmes d'exploitation libres qu'on aurait pu installer, mais que désormais on ne peut plus installer, étant donné que dans ce lieu qui est très fermé, plus aucune possibilité d'accès à du savoir n'existe. Ou alors il faut payer vraiment très très cher. Et en plus, Dan est très embêté, puisque s'il prête son ordinateur à Lisa, elle pourra regarder ses livres. Et là, c'est terrible, puisqu'on ne peut pas, si on a acquis très très cher des livres scientifiques, on ne peut évidemment pas les faire lire à quelqu'un d'autre. Simplement, l'amour donne des ailes. Et il se trouve que Dan aime Lisa. Et il va faire un geste inconsidéré, aussi fou qu'au début de 1984 d'Orwell, c'est-à-dire qu'il va non seulement lui prêter son ordinateur, mais il va lui donner son mot de passe. Et il se trouve que Lisa, qui aime Dan, ne le trahira pas, parce qu'elle peut évidemment aussitôt le dénoncer, et il est enfermé comme celui qui a essayé d'utiliser un outil de débogage à tout jamais dans une prison. Alors, quand on voit déjà ce qu'il en est de ce scénario, bon, il se trouve que j'ai parlé avec Richard Stallman en lui disant à quel point cette fiction, cette dystopie était propice à un film, hein, à tel point les détails très puissants, ce texte est de 1997, il est presque d'une certaine façon prémonitoire. Alors nous pensons bien sûr au DRM, les Digital Restrictions Management, la gestion numérique des restrictions. Et là, je pense, Fred, que nous pouvons renvoyer à la vidéo de l'April sur les DRM.
Alors, les DRM qu'on appelle aussi menottes numériques, on peut renvoyer à deux choses. Il y a une vidéo qui a été faite il y a maintenant 2 ans qui montre l'impact des DRM, justement, notamment sur les livres. Vous les trouvez sur le site de l'April. Et également une précédente émission Libre à vous de 2018, donc, qui était consacrée justement à cette question des menottes numériques. Donc vous allez sur le site de l'April, april.org, dans la partie consacrée à l'émission Libre à vous, et vous retrouverez ça dans les archives.
Alors il se trouve que ce récit, cette fiction, est suivi d'abondants commentaires qui sont régulièrement remis à jour, lorsque par exemple Richard Stallman parle des fonctionnalités orwelliennes de certaines liseuses, bon, son assimilation de Kindle à Swindle, donc d'Amazon, hein, ce qui espionne, profile le lecteur. Bon, on a en tête ce qui s'est passé en 2009, hein, lorsqu'il y a eu effacement de plus de 1000 copies de 1984, donc sur les liseuses. Les commentaires portent aussi sur la vigilance qui est requise lorsque on parle de traités internationaux, puisque dans les traités internationaux, il y a vraiment toujours la volonté de transformer des ressources ouvertes à des dispositifs qui privent, qui empêchent, qui rendent le savoir denrée rare et chère, bon, ce qui est un extrême paradoxe. Il se trouve qu'Aristote disait que le savoir était aussi nécessaire que l'eau et qu'il fallait qu'il soit gratuit comme l'eau, qu'il fallait pouvoir le partager comme l'eau. Je pense aussi, Fred, je crois que tu serais, me semble-t-il, dans cette même impression que moi, à la directive droit d'auteur, qui a été examiné par la Commission européenne, je pense à l'article 13 sur le filtrage automatique des plateformes. Dans les commentaires, dans ce texte de 1997, Richard Stallman parlait déjà de cette menace sur l'Internet qui allait faire de lui un Internet à plusieurs vitesses. Donc ceux qui disposent d'un redoutable mot de passe que donnent au compte-gouttes les autorités, les outils de débogage étant réservée à très peu. Bon, certes, il y a les apprentis informaticiens, il y a un usage très restreint, quand vraiment on veut leur faire étudier un petit peu de code, d'outils de débogage protégés par des pare-feux, par exemple. Et donc, il y a, dans le rapport entre cette fiction et les commentaires, ce texte étant prémonitoire, les commentaires sont constamment mis à jour, l'hypothèse que le droit de lire, qui fait partie de la démarche la plus essentielle pour faire de soi quelqu'un qui n'est pas en proie aux illusions, se trouve dans cette dystopie alourdie par des dispositifs architecturaux. Donc je pense à ce code qui n'est pas libre, et si le code n'est pas libre, la société n'est pas libre. Quelqu'un a dit le code, c'est la loi. Et comme ma discipline de prédilection est la philosophie, je rappellerai qu'en 1516 ont été publiés conjointement Le Prince de Machiavel. Alors comment rester au pouvoir par tous les moyens, y compris en empêchant ces sujets d'être éduqués, d'apprendre à lire. Mais en même temps, 1516 toujours, il y a ce premier texte qui s'appelle Utopie de Thomas More. Et dans l'Utopie de Thomas More, qui est exactement aux antipodes du Prince de Machiavel, on essaie de construire une architecture telle que les rapports entre les humains soient confiants, soient proches, soient propices au partage. Et je dirais que, toute proportion gardée, les propositions du projet GNU, qui vise à une architecture informatique propice à l'accès à des documents et à des processus, s'inscrit dans cette lignée. Alors, d'une utopie, attention, parce que parfois on fait de l'utopie une illusion, mais de l'utopie au sens propre, et c'est un néologisme de Thomas More, « e », ça veut dire « bon ». Et je dirais en conclusion, « informatique libre, société libre ».
Bah, c'est une belle conclusion, Véronique. Donc, un texte, on va le rappeler, qui a été écrit en 1997, qui est donc disponible sur le site de GNU, donc gnu.org, gnu.org, le droit de lire. On rappelle aussi qu'une dystopie, donc comme tu l'as dit, c'est une fiction dans laquelle la société est construite pour empêcher ses membres d'atteindre le bonheur, alors que, évidemment, c'est le contraire du projet GNU, avec le partage du savoir, la libération, l'accès à l'ensemble des savoirs. Voilà, donc en tout cas, merci pour cette chronique, dont on va rappeler le titre, qui est évidemment Partager est bon. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine chronique. Merci Véronique,
au revoir, belle journée. Belle journée à toi.